Ça marche, ça? Merci. Alors, on va commencer par une question. Qui était là dimanche dernier? Bon, heureusement, il y en a qui n'étaient pas là dimanche dernier. Enfin, heureusement, je ne sais rien d'ailleurs. Je vous dis pourquoi, hein, parce que je ne pose pas des questions juste pour rien. Parce que d'un échange de SMS avec Jean-Roux hier soir à 21h, je me suis rendu compte que le texte que j'ai, sur lequel je vais vous inviter à réfléchir ce matin est un texte qu'il a utilisé dimanche dernier dans sa prédication. Mais, comme chacun sait, vous savez, il y a deux sortes de prédicateurs. Il y a ceux qui parlent toujours sur le même texte et qui disent jamais la même chose, et ceux qui parlent sur plein de choses différentes, plein de textes différents et qui disent toujours la même chose. Alors voilà, hein, c'est... je pense que il se trouve que j'avais à cœur de vous parler de quelqu'un que j'aime bien dans l'Évangile. Hein, Alors donc, ceux qui étaient là dimanche dernier, maintenant on va essayer d'aller un peu plus loin dans le questionnaire. Qui a écouté et qui se rappelle de quoi Jean-Haut a parlé dimanche dernier? C'est la deuxième question. Alors, il y a trois mains qui se lèvent, ça va? C'est les autres, ils ont... Hein? Ah, on ne gagne rien du tout, moi, j'ai pas de caramba. Alors, oui?
Thomas.
Voilà, merci, grâce. Effectivement, voilà, c'est une période après Pâques, ça fait deux semaines hein, qu'on a fêté Pâques, et c'est vrai que c'est quand même un moment où, moi en tout cas, j'aime bien relire les textes de l'Évangile qui sont autour de cette période. Pas oublier que les évangiles hein, veulent dire quelque chose, veulent nous amener quelque part. C'est pas juste un compte-rendu journalistique de ce qui s'est passé. D'ailleurs, l'évangile de Jean, qui est le seul qui parle vraiment de Thomas, puisque les autres mentionnent Thomas dans la liste des disciples, mais le seul qui donne des commentaires ou qui dit quelque chose de particulier sur Thomas, c'est l'évangéliste Jean. Et l'évangile de Jean a été écrit, d'après ce que pensent les historiens, tout à fait à la fin du 1er siècle. Hein. Entre l'an 80 et l'an 100, enfin voilà, selon les estimations. Et donc, que voulait nous dire l'évangéliste en parlant de Thomas? Il faut se souvenir, deux semaines après Pâques, la plupart des gens étaient désespérés, enfin en tout cas ceux qui avaient cru en Jésus, qui avaient cru qu'il allait transformer quelque chose d'important, alors avec plus ou moins d'implications politiques ou pas, par rapport à l'occupant romain. Et puis il y en a certains qui prétendaient avoir croisé quelqu'un qui disait qu'il l'avait rencontré, qui disait qu'il l'avait vu vivant. Hein. Le bruit commençait à courir, mais comment croire cela? On savait qu'il avait été cloué sur une croix, qu'il était effectivement mort, qu'il avait été décroché de la croix, mis dans un tombeau. Même certains vraiment disaient, nous on l'a vu vivant, alors bon, les femmes d'abord. Alors voilà, Luc, l'évangile nous dit que les disciples n'ont pas voulu croire à ces niaiseries, dans ma traduction, hein, c'est des contes de bonnes femmes, comme on dit, hein, voilà. Je n'assume pas ces propos, hein, je ne fais que les citer. Voilà, et donc, Jésus se présente aux disciples, et certains disent même qu'ils étaient tous ensemble quand Jésus est venu les voir, et tous non, parce que, précisément, Thomas n'était pas là. Alors, je pense que, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, et pour les autres aussi, nous allons relire ce texte de l'Évangile de Jean. Une partie. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis à Thomas, il dit, avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Alors Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le chapitre termine avec cette phrase. Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Alors, Thomas, on en a dit beaucoup de choses, et donc Jean-Haut, pour ceux qui étaient là, on a dit sans doute beaucoup de choses dimanche dernier. Moi, il y a un élément qui m'a interpellé en relisant ces textes. Thomas, appelé Didyme. Alors didyme, bon, apparemment Thomas se traduit didyme en grec, et didyme ça veut dire jumeau. Pourquoi donc l'évangéliste a besoin de nous dire que Thomas était jumeau, alors qu'on ne parle jamais de son jumeau ou de sa jumelle? Il y a d'ailleurs quantité de littérature qui a été faite, des gens qui ont prétendu savoir que Thomas était le jumeau de Jésus, et que c'était d'ailleurs lui qui était apparu, enfin voilà, ça, il y a plein de choses qui ont été écrites, justement parce que la seule chose qu'on sait, c'est que c'était un jumeau. Il y a des jumeaux ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont jumeaux? Oui. Ah, ben, c'est jumelles. C'est un frère ou une sœur? Une sœur, voilà. Donc il y a des gens qui sont jumeaux, hein? Et elles sont vraiment pareilles. D'ailleurs, qui c'est là laquelle des deux est présente aujourd'hui, hein? D'accord. Voilà, ça m'a fait réfléchir. Il y a sans doute une raison pour nous parler de ce caractère. Et je me suis, voilà, ça m'a simplement fait réfléchir à d'autres exemples de jumeaux dans la Bible. Pas beaucoup, mais rappelez, qui c'est qui peut me citer Jacob et Ésaü, hein? Je crois que c'est vraiment l'exemple typique de deux jumeaux. Alors, je ne sais pas comment vous êtes, les deux sœurs, là, mais Jacob et Ésaü, c'était, comme on dit, comme l'huile et l'eau, quoi, c'est ça. Enfin, bref, comme l'eau et le feu. Enfin, je ne sais pas quelle est la meilleure description. Mais, donc, vous connaissez l'histoire. Isaac, le fils d'Abraham, qui trouve une femme, on va la chercher au loin, etc. Et puis, elle est enceinte, et apparemment, la grossesse a dû être compliquée, parce qu'à un moment, il nous a dit que. Elle dit, mais pourquoi je suis enceinte? Les enfants se battaient dans son ventre, déjà dans le ventre. Ils se battaient dans son ventre. Elle a dû avoir une grossesse plus que difficile. Et finalement, voilà, les deux arrivent, Ésaü, Jacob. Et là, c'est des exemples de deux jumeaux tellement différents. Ésaü, un homme de la nature, un chasseur, un pêcheur, peut-être pas très très fin quand même, hein, parce qu'il a réussi à vendre son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Bon, on aurait peut-être pu réfléchir un peu plus. Et puis l'autre, un homme d'intérieur, on dit que Jacob aimait bien être dans la tente, tranquille, filou, rusé, calculateur, bref, tout le contraire, enfin deux qui sont vraiment tout le contraire, et en guerre permanente. Quand on regarde leur histoire, hein, comme Jacob a quand même bien possédé son frère, bah, Ésaü a envie de le tuer, donc Jacob est obligé de fuir, et puis quand il fuit, bah, Jacob continue à avoir un comportement, on ne veut dire pas d'une rectitude absolue, hein, d'accord, il fait tout ce qu'il faut pour s'enrichir, pour devenir puissant, et quand il revient, il y a encore cette hostilité avec Ésaü. N'empêche que Dieu transforme, Dieu modifie, et Jacob finalement sera appelé Israël, le père du peuple élu. Et à partir de là, on appellera l'Éternel le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Deux jumeaux, deux personnages très différents, un peu comme l'histoire de Romulus et Rémulus, hein, pour ceux qui se rappellent leur cours d'histoire d'il y a longtemps. Les fondateurs de Rome, hein, deux jumeaux, alors élevés par une louve, paraît-il, selon la légende, la mythologie, etc. Mais tellement opposés l'un à l'autre qu'il y en a un qui finit par tuer l'autre. Dans la Bible, ils ne se tuent pas, hein, mais ils arrivent à trouver un agrément pour vivre chacun de son côté et se faire des cadeaux, puis après en arrêter là. Mais là, Romulus tue Rémus, et c'est Romulus qui va fonder Rome. Deux jumeaux, très différents, comportements incompatibles, qui s'affrontent. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'extrême inverse, hein, dans les jumeaux. On connaît aussi des jumeaux qui sont très proches, peut-être toi avec ta sœur, je ne sais pas. Comme les Dupont-Dupont, hein, dans Tintin, vous savez, ils sont tellement semblables qu'on les confond. Heureusement, le mot se termine, il y en a un avec un D et l'autre avec un T, voilà. Des images comme ça. Et là, la question, c'est ça, c'est quel type de jumeau était Thomas? Est-ce qu'il était plutôt quelqu'un de vindicatif, énergique, etc., prêt à tout casser, ou au contraire, un filou, un malin, ou je sais pas quoi, hein, c'est ça la question qui m'interroge. Une autre histoire de jumeaux, moins connue quand même celle-là. Judas, un des fils de Jacob, c'est un peu plus loin dans la Genèse, vous lirez ça dans la Genèse au chapitre 38, pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent poursuivre. Judas est veuf, et puis il cherche consolation auprès d'une prostituée. Voilà, bon, pas de jugement sur ce comportement, mais c'est ça l'histoire que la Bible nous raconte. Et cette prostituée devient enceinte. Et puis il s'aperçoit après coup que cette prostituée, c'était autre que sa belle-fille. Et donc, bref, l'histoire est un peu compliquée. Mais comme beaucoup d'histoires humaines, finalement, et la Bible n'hésite pas à nous raconter des histoires humaines, même compliquées, ce n'est pas un joyeux conte de fées. C'est simplement la vie de Dieu auprès d'êtres humains comme vous et moi, avec les défauts et les qualités de chacun, et les comportements qui sont parfois très vertueux et parfois beaucoup moins. Et donc, il y a deux enfants qui naissent, Pérez et Zérak, bon, ça se prononce, et puis on n'entend plus trop parler d'eux. Sauf que si on cherche un petit peu, on s'aperçoit que là aussi, ils ont vécu des chemins très différents. Leurs descendants sont cités, Zérak d'abord. Un de ses descendants, c'est un certain Akan. Alors, Akan, ça dit quoi à qui, si je peux... Qui est Akan? Allez, qui c'est qui a un peu lu cette histoire? Bon, vous l'avez tous lu, mais vous l'avez oublié, évidemment. Moi, c'est facile, je l'ai relu hier, donc j'ai pas de mérite. Akan, c'est juste après la prise de Jéricho. À la prise de Jéricho, l'Éternel dit, il faut... Tout ça, c'est le mal absolu, donc il faut détruire absolument tout. Tout sera voué à l'interdit. D'accord ? Et puis, il y a un certain Akan qui trouve que quand même, il devait y avoir des choses qui avaient de la valeur quand ils avaient détruit Jéricho, et qui en met un peu de côté pour son compte. C'est ce fameux Akan. Suite à ça, voilà, il y a une bataille dans laquelle les Israélites sont défaits, et Josué ne comprend pas, il dit, mais on vient à peine de commencer la conquête, et ça commence déjà à se retourner contre nous. Et Dieu lui dit, mais cherche bien, il y a quelqu'un qui n'a pas obéi, qui s'est détourné, qui n'a pas été fidèle à ce que tu avais prononcé au nom de tout le peuple. Vous lirez l'histoire, c'est dans Josué au chapitre 7. Voilà, après, il y a des conséquences, évidemment, et j'allais dire, Dieu donne les moyens de rectifier cette situation. Donc, Zérak, plutôt, pas forcément une bonne descendance, hein, si j'ose dire. Donc, dans les jumeaux, c'était celui qui avait la mauvaise part, en quelque sorte. Hein. Et puis l'autre, il s'appelle Pérez. Alors, quelques générations après lui, on trouve un certain Boaz. Voilà, c'est plus facile, vous savez qui c'est, Boaz. Hein. Boaz, à Bethléem, qui sera le mari de Ruth, la Moabite, qui est revenue avec Naomi. Du pays de Moab après des aventures assez difficiles à supporter. Et donc Boaz et Ruth donnent naissance à Obed, qui donne naissance à Isaïe, qui donne naissance à David, le roi David. On voit qu'ils suivent, c'est bien. Voilà. Donc, juste pour dire, nous sommes des êtres complexes et parfois le chemin se trace et longtemps après il va être le bon chemin ou parfois c'est un chemin de. Qui se détourne de la vérité de Dieu. Et donc cette famille de Pérez, alors j'en rajoute un peu par rapport au texte biblique, mais c'est l'image que je souhaitais garder, une famille fidèle, bénie dans l'histoire biblique. Et d'ailleurs encore un peu plus loin, quand on regarde, c'est intéressant d'aller un peu plus loin, après le peuple d'Israël, vous savez, il a vécu tout un tas d'aventures, puis ils ont fini par être déportés à Babylone, et puis il y a Néhémie qui se lève et qui, voilà, grâce à un édit de Cyrus, a le droit de revenir pour rebâtir la ville, la muraille d'abord. Ils cherchent des costauds, des vaillants, des gens qui s'engagent. Et le texte nous dit précisément que 468 hommes vaillants de la famille de Pérez sont venus avec lui. Je trouve intéressant qu'au long des années, peut-être des siècles, enfin je ne sais pas exactement, on ne sait pas exactement quand tout cela a été écrit, mais on garde le fil de cette famille Pérez qui, non seulement il y a eu Boaz, il y a eu David, mais un peu plus tard, voilà, ils ont tous vécu le malheur de la déportation. N'empêche que, quand on cherche des gens qui de nouveau montrent une fidélité au Seigneur, eh bien, ils se lèvent et il y a 468 hommes vaillants qui sont engagés, qui sont volontaires. Alors, quel type de jumeau était Thomas, hein ? Et puis, tiens, j'avais envie de rajouter une autre paire de personnes. Là, je triche un peu, parce que rien ne nous dit que c'était des jumelles. Mais dans l'épître aux Philippiens, à la fin de l'épître aux Philippiens, une petite mention spéciale de l'apôtre Paul, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Alors, à strictement parler, on ne nous dit pas que c'était des jumelles. Enfin, c'était deux femmes qui manifestement étaient très proches. Quel était leur lien ? Parenté ou pas parenté, je ne sais pas. Voilà, je vais un tout petit peu au-delà de ce que le texte strictement permet de dire. Mais elles avaient vécu, et la suite du verset de que dit Paul, hein, et toi aussi, fidèle collègue, dit Paul à l'église, enfin à celui à qui va recevoir cette épître, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'évangile, avec Clément et avec beaucoup d'autres, etc. Donc elles sont très proches, elles ont vécu des choses très fortes, et avec l'apôtre Paul en particulier. Et puis là, pour une raison que l'on ne connaît pas, on va dire, elles se crêpent le chignon, en quelque sorte, hein, si on portait les chignons à l'époque. Ou en tout cas, elles s'opposent. Elles s'opposent comme deux jumeaux peuvent s'opposer, comme Jacob et Ésaü pouvaient s'opposer. Elles n'ont pas le même sentiment. Voilà, c'était quelques exemples de personnes, de jumeaux ou de personnes très proches. Et puis, je crois que ça nous éclaire sur nous, sur notre nature, parce que est-ce qu'on n'a pas, nous, en nous aussi, parfois, les comportements des deux éléments du couple de jumeaux, hein. On est un peu Jacob et un peu Ésaü. On est un peu Zérak et un peu, comment il s'appelle, Pérez, d'accord. Fidèle sur le long terme, mais en même temps prêt à des compromissions. Et Vaudy et Saint-Tiche, on ne sait pas pourquoi, mais on est capable aussi de porter des rancunes et de les porter longtemps. Pensez que quand Jacob est revenu de sa longue période chez son oncle, Laban, je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais peut-être 20 ans. Au bout de 20 ans, son frère, ils avaient toujours peur que son frère ait encore la haine contre lui et veuille le tuer. L'être humain est capable de garder comme ça des choses très longtemps. Alors, revenons à Thomas. Donc, c'est un jumeau, on ne sait rien de son double. Mais là, je vais reprendre des choses que Jean a sans doute dit la semaine dernière. Dans l'évangile de Jean, il y a 2-3 textes qui nous parlent de lui et qui nous le montrent d'abord comme un homme engagé, courageux. C'est dans Jean au chapitre 11, au moment où Jésus dit, bon allez, on va aller à Jérusalem, c'est au travers de l'épisode de Lazare, etc. Et il va en Judée, alors que juste avant on avait appris qu'il y avait manifestement du monde qui en voulait à Jésus et qui lui voulait du mal. D'ailleurs les autres disciples ont tendance à dire, bah t'es sûr qu'il faut vraiment y aller, hein? Dans Jean au chapitre 11, quand Jésus eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours là, et puis il dit, retournons en Judée. Mais les Juifs cherchaient à te lapider. T'es sûr qu'il faut y aller maintenant? Et tout à ce moment-là, Jésus dit, maintenant, on va y aller. Et Thomas, c'est lui qui dit, allons-y aussi. Allons avec lui pour mourir avec lui s'il le faut. Là, Judas est dans sa phase engagée, prêt à tout pour aller avec le Seigneur. Il est prêt à... Thomas, qu'est-ce que j'ai dit? Judas, je me suis trompé. Merci. J'ai ma correctrice, ça va. Merci Anne-Pierre. Thomas, il est prêt à tout, là. Il dit, ça fait rien, ok, jusque-là on y a cru, et puis s'il décide d'aller là-bas, il a sûrement ses raisons. Donc on va avec lui, et on sait pourtant que ça peut présenter des risques. Mais, quelques jours plus tard, Thomas, il sera comme les autres. Quand viendront les gens pour arrêter Jésus, il va se sauver comme tout le monde. Et on ne le verra pas du tout auprès de Jésus, et il laissera Jésus seul face à Pilate, face à ses accusateurs, face à tous les gens qui veulent, tous ces soldats qui vont se moquer de lui. Voilà. Thomas est un homme multiple, comme nous sommes multiples. Et c'est vrai qu'on le pointe du doigt parfois comme un symbole de manque de foi ou quelque chose comme ça, mais moi je dis surtout c'est un symbole de ce que nous sommes, tout simplement, avec... des choses positives et des engagements, comme quand on chante ce matin des choses très fortes, hein, compte les bienfaits de Dieu, et puis bon, peut-être on va rentrer chez nous et on va penser à des choses qui nous paraissent pas vraiment être des bienfaits, et ça va être difficile de continuer à compter les bienfaits de Dieu. Et Thomas est comme ça. Et puis après, Thomas, c'est aussi quelqu'un qui ne s'en laisse pas compter dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, hein. Moi, on me la raconte pas si je vois pas la marque des clous, si je peux pas toucher cette plaie qu'il a sur le côté. Puisqu'on sait que le soldat avait achevé Jésus d'un coup de lance dans le côté. Et c'est vrai que moi je suis toujours interrogatif par rapport à ça. Est-ce que c'est un manque de foi? Ou est-ce que c'est simplement... Sa tête était tellement pleine de choses contradictoires qu'il n'arrivait pas à trier. Ça nous arrive sans doute un peu aussi, hein. C'est vrai que le dimanche matin, on est très clair sur ce qu'on croit. Et parce qu'on est avec des gens qui disent la même chose, donc ça va, c'est pas trop compliqué. Puis dans le quotidien, dans nos vies de tous les jours, qu'elles soient dans des périodes faciles ou difficiles d'ailleurs, dans tous les cas, c'est parfois peut-être un peu plus compliqué. Et on a besoin de plus que simplement ce qu'on a entendu à l'église le dimanche. Et ce sur quoi il faut bien insister et se rappeler, c'est que dans ces cas-là, Jésus vient 8 jours plus tard, il vient rencontrer Thomas là où il est bloqué. Dans sa réflexion, dans sa vie, dans sa progression, Thomas il bloque là, il dit c'est pas possible qu'il soit ressuscité, je peux pas si je le vois pas. Et Jésus vient le voir, il vient le rencontrer là où il est bloqué. T'as besoin de ça ? C'est ça qui va te permettre d'avancer ? Ben écoute, tiens, vas-y, viens, regarde, allez, avance tes doigts, viens, fais-le. Jésus vient nous rencontrer là où parfois la vie est difficile pour nous, là où ça coince, là où on n'arrive pas à mettre et à trouver que 2 et 2, ça fait toujours 4 parce que c'est pas possible et que ça bouscule trop notre vie. Jésus vient pour nous rencontrer. Un autre passage, le chapitre suivant dans l'évangile de Jean, chapitre 21, Jésus, là, c'est l'apôtre Pierre qui vient rencontrer. Et c'est pareil. Pierre, il avait eu un comportement pas plus glorieux, on va dire, que les autres disciples. Alors, on cite son reniement, mais enfin, ils avaient tous renié le Seigneur, quand même. Hein. Bon, alors lui, il l'avait fait de façon un peu plus forte, mais peut-être parce qu'il était un peu plus près aussi. Voilà, bon, ça s'équilibre si on veut. Mais il est quand même toujours bloqué là-dessus. Comment faire pour avancer avec ça? Il a quelque part, comme tous les autres disciples, participé à l'échec de la mission de Jésus. Et au bord du lac, c'est dans Jean au chapitre 21, Jésus vient rencontrer Pierre là où il est bloqué. Et le texte, l'évangéliste, insiste en disant, alors Pierre a renié 3 fois Jésus, d'accord? Le texte nous dit que c'était la 3e fois que Jésus rencontrait ses disciples après sa résurrection. Et il va 3 fois poser une question à Pierre et 3 fois le faire sortir de cette question pour lui dire « Paie mes brebis, paie mes agneaux, je compte sur toi, j'ai confiance en toi, malgré ça, et je t'envoie sur le chemin pour aller accomplir ce que j'ai en réserve pour toi, ce que j'ai prévu pour toi. » L'évangéliste insiste lourdement pour dire que Jésus vient vraiment rencontrer Pierre là où Pierre est bloqué. Et quand nous sommes dans une situation comme cela, faisons confiance que Jésus est prêt à venir nous rencontrer là où ça coince. Une décision à prendre, une rancœur, une blessure, une maladie, enfin que sais-je, ou quel que soit le sujet, tout simplement. Si ça nous empêche d'avancer, Jésus est prêt à venir nous rencontrer là où nous sommes bloqués. Comme Thomas, tu as besoin de voir mes blessures ? Ben viens, je vais te les montrer, voilà. Le texte ne dit d'ailleurs même pas que Thomas les a touchés. Hein, il dit, si je ne vois pas les marques, si je ne mets pas ma main dans mon côté, si je ne touche pas vraiment ces cicatrices, et quand Jésus lui montre, il n'y a pas besoin de... On ne sait même pas s'il a eu besoin de le faire. Le simple fait que Jésus soit présenté à lui pour le rencontrer là où il était bloqué, ça suffit pour que Thomas franchisse l'obstacle et qu'il s'exprime dans cette belle confession de foi. Si j'ose dire, c'est simple, mais tout est dit, mon Seigneur et mon Dieu. Tout se résume là. Ça ne veut pas dire que les événements s'éclaircissent. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout de suite ce qui va se passer demain. Ça ne veut pas dire que les difficultés sont aplanies. Mais ça veut dire simplement, j'ai franchi cet obstacle, je ne suis plus bloqué là. Et je suis prêt à continuer à avancer et à faire des pas en avant. Alors, comme je le dis souvent, j'aime bien Thomas, peut-être parce qu'il me ressemble un peu, ou parce que je lui ressemble un petit peu, ou parce que... Voilà, je trouve qu'il est assez symbolique de ce que nous sommes, avec des côtés très flamboyants ou très positifs, en tout cas qu'on aime mettre en avant, et puis bon, bah, nos côtés moins glorieux, si j'ose dire, chacun pour notre part, sans être tout à fait Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il ne faut pas exagérer, ça c'est de la caricature, mais nous sommes quelque part aussi des êtres complexes, et on se comporte parfois un peu comme Jacob, ou un peu comme Ésaü, un peu comme... comme le bien, un peu comme le mal, c'est notre nature humaine. Alors c'est notre nature humaine, nous devons l'accepter, même si nous devons aussi laisser le Seigneur justement nous transformer et en particulier nous aider à avancer là où nous bloquons, comme il a transformé Pierre. Paie mes agneaux, prends soin de mes brebis, etc. Et on sait quel grand apôtre a été Pierre ensuite. Ou bien quand Dieu rencontre Jacob au torrent de, je ne sais plus comment c'est le nom là, hein, d'accord, et donc et voilà, il y a un combat, c'est un combat parfois, n'empêche qu'au-delà de ça, Jacob c'est Israël, c'est le père de la nation, du peuple élu, choisi par Dieu, et à partir de là l'Éternel est donc, comme je l'ai dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il rentre dans ce jeu-là. Et cette belle confession de foi que fait Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », la réponse de Jésus est intéressante aussi. Il répond par ce qu'on peut appeler une béatitude, hein, un peu comme les béatitudes de l'évangile de Matthieu, « Heureux les pauvres en esprit », etc. Ou les béatitudes de l'Apocalypse, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Voilà, c'est ces phrases qui commencent par « Heureux certaines catégories de personnes ». On a la même chose ici. Et ce que Jésus lui dit ici, c'est « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Mais c'est nous, ça. C'est juste pour nous, tout ça. À partir de la génération qui a suivi les premiers disciples, ceux qui avaient effectivement vu Jésus et qui, éventuellement, pour certains d'entre eux, l'avaient vu ressuscité, bah, plus personne n'a vu Jésus ressuscité. Nous n'avons pas vu les marques dans ses mains, nous n'avons pas vu la blessure dans son côté. Nous faisons partie de tous ces gens qui n'ont pas vu. Et le Seigneur nous dit, mais si vous croyez, et si vous pouvez dire la même chose, mon Seigneur et mon Dieu, alors vous êtes heureux, alors vous êtes vraiment dans le plan de Dieu, vous rentrez véritablement dans le chemin que Dieu a préparé pour vous. Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité, et ça nous ne pouvons le dire que parce que par la foi, nous rentrons dans cette dynamique que Dieu a créée, même si nous n'avons pas vu, parce que nous faisons partie de ces gens qui n'ont pas vu et qui sommes pourtant appelés à croire. Alors, cette béatitude, elle est vraiment pour nous. En tout cas, moi, je vous souhaite de la prendre pour vous, chacun d'entre vous, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide au travers de la parole, au travers des frères et sœurs, au travers de tel ou tel événement de notre vie, avec nos différences, les différences entre nous, les différences à l'intérieur de nous-mêmes, si j'ose dire. C'est le Seigneur qui nous aide à passer au-delà de ces obstacles, des choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et un jour, de dire, ou de redire, ou de re-redire, parce que je crois que c'est pas... Bien sûr, il y a parfois des temps forts dans notre vie, hein, une conversion peut être un temps très fort, qui fait vraiment basculer des choses, mais combien de fois avons-nous besoin de nouveau de nous rendre compte qu'il y a une marche à franchir, on n'y arrive pas, on est bloqué. Est-ce que nous croyons toujours que le Seigneur vient nous rencontrer là où nous sommes bloqués et vient nous répondre à notre demande, même si elle paraît, hein, on aurait tendance à critiquer Thomas, c'est quoi ce mec, si je ne vois pas ses plaies, etc., pour qui il se prend, etc. Mais ne jugeons pas, comme ça a été dit tout à l'heure, nous avons aussi des comportements comme ça parfois, et ce qui est formidable, c'est que Jésus vient nous rencontrer comme il est venu rencontrer Thomas, comme il est venu rencontrer les autres personnes que j'ai citées. Et j'ai voulu volontairement lire jusqu'au bout du chapitre 20 de l'évangile de Jean, qui termine, avant donc, il y a encore un autre chapitre dans l'évangile, mais ceci est écrit, donc cette histoire et la façon dont l'évangéliste Jean a voulu la noter, l'inscrire pour que nous la lisions, ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom, et je rajouterai, vous qui n'avez pas l'occasion de voir. Si tu me permets, nous tous qui n'avons plus l'occasion de voir Jésus ressuscité en chair et en os, c'est sûr que le chapitre 21 nous raconte Jésus qui va faire un barbecue avec ses disciples sur la plage au bord du lac de Galilée. Donc nous n'avons pas, nous n'aurons jamais le privilège de cela. Mais ceci est écrit afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Alors voilà un peu où m'ont mené mes réflexions sur Thomas Didyme, Thomas le jumeau, avec à la fois cet éclairage sur ce que nous sommes nous-mêmes, ni tout blanc, ni tout noir, ni tout ceci, ni tout cela, mais selon les moments et selon les péripéties de nos vies, nous pouvons être plutôt de tel ou tel domaine. Et surtout, nous sommes tous soumis à des moments où c'est compliqué d'avancer. C'est compliqué d'avancer en restant fidèle. C'est compliqué d'avancer en gardant cette foi accrochée en nous et au fond de notre cœur. Et il y a des fois une marche, c'est-à-dire l'impression qu'on ne va pas y arriver, c'est trop haut pour nous. Croyons que Jésus vient nous rencontrer à cet endroit-là. Et Thomas représente en quelque sorte un pont entre les disciples visuels, ceux qui ont été avec Jésus, et puis nous tous, un pont qui permet justement d'aller au-delà. C'était bien sûr ceux qui ont vécu avec lui, ils ont eu peut-être, on va dire, un avantage, si je puis dire comme ça, ou ils ont en tout cas vécu des choses que nous n'avons pas vécues. Mais les promesses que l'Évangile contient, que la Bible contient, elles sont pour nous aussi parce que heureux êtes-vous, vous qui n'avez pas vu, mais qui pourtant avez cru. Voilà les paroles, les pensées que j'avais à partager avec vous. J'espère avoir pas fait trop de redites par rapport à ce qu'a dit Jean-Haut. Mais plutôt que, comme on l'a chanté tout à l'heure, hein, ta parole avait une épée à deux tranchants. Alors peut-être dimanche dernier, il y avait un côté du tranchant, puis aujourd'hui, c'était l'autre côté du tranchant. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que ta parole ne nous dépeint pas des gens tellement différents de nous que nous aurions toutes les peines du monde à pouvoir nous appuyer sur ces exemples. Non, il s'agit de personnes à tous les siècles, à toutes les époques, qui, comme nous, ont leur fragilité, leur force. Mais combien de fois dans ta parole tu viens, tu interviens, tu vas chercher les gens là où ils sont, tu les cherches là où ils sont bloqués et tu les aides à franchir cette étape. Seigneur, que nous puissions juste centrer nos regards sur toi et continuer à garder cette foi et à pouvoir dire tous les jours, mon Seigneur et mon Dieu. Après, la journée t'appartient, Seigneur. Aide-moi à franchir les obstacles qui seront devant moi. Aide-moi à avancer aujourd'hui comme demain, comme plus tard. Parce que peut-être nous n'avons pas vu physiquement tes blessures, tes marques dans les mains. Mais nous voulons dire et redire ce matin et encore dans la suite de nos vies, oui, malgré tout, nous croyons que tu es le Fils de Dieu et qu'en toi, nous avons la vie éternelle. Amen.